parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Donc, je suis Valentin Dive, j'ai 28 ans. En fait, j'ai été juriste pendant 3 ans, enfin juriste de formation et en fait lobbyiste dans mon travail. Et il y a environ 6 mois, j'ai décidé de quitter ça pour devenir boucher.
Je vous coupe quelques instants, déjà pour vous remercier pour votre écoute, et ensuite pour vous dire que vous allez entendre ma voix qui est un peu différente des épisodes précédents. C'est normal, j'ai acheté un nouveau micro et je l'ai extrêmement mal utilisé pendant l'épisode. Donc ma voix est un peu... est pas au top. Heureusement que je ne parle pas souvent et que ça dérange pas du tout pour l'épisode. Mais voilà, je préférais vous prévenir et vous souhaiter une merveilleuse écoute. Et n'hésitez pas non plus à me noter, j'ai vu que sur Spotify maintenant on peut mettre des notes. N'hésitez pas, mettez 5 étoiles, ça me fera plaisir. Merci. Donc c'est quoi le lobbyiste, tu dis?
Ouais, j'étais lobbyiste en finance, en fait, je m'occupais, j'étais dans un syndicat qui s'occupait de représenter les intérêts des sociétés de gestion. Pour les plus connus, c'était Amundi, BNP, Société Générale, enfin un peu tout ça, quoi.
Ok, mais parce que c'est un métier qui m'a toujours parlé un peu. Moi, pour moi, les lobbyistes, ça sonne toujours négatif. J'entends lobby, j'entends ouais. Pas bien. C'est quoi exactement, genre, c'est quoi, tu fais quoi dans la journée?
Bah en fait on bosse beaucoup sur des textes réglementaires qui viennent très souvent en fait en finance de l'Union européenne, plus précisément de la Commission européenne. Ouais. Et on essaye de faire en sorte qu'ils collent le plus possible à la pratique. En fait, souvent en finance, bah tu pars de l'a priori que la finance c'est mal, qu'il faut la taxer, qu'il faut la réguler, etc. Et du coup, partant de ce postulat-là, en fait, si tu veux, la Commission européenne elle pond des textes qui sont souvent vraiment difficilement applicable en réalité pour plein de raisons techniques. On va pas rentrer dedans parce que je pense que ça va perdre tout le monde, mais plein de raisons techniques, c'est pas applicable, et nous on essaie de faire en sorte de les faire modifier pour que ce soit mieux applicable et mieux appliqué et que ça corresponde un peu à la pratique.
Ok, et après t'es devenu boucher, donc vraiment rien à voir avec le
vraiment avec rien le à voir. Ouais, je suis sorti des textes pour couper de la viande, ouais.
Mais on va attendre un peu pour la partie boucherie. Peut-être revenir dans le passé d'abord, avant que tu travailles. Toi, c'est quoi ton parcours? T'as fait quoi avant de travailler?
Bah en fait, j'ai fait un bac puis des études de droit. Ce qui est assez marrant, c'est que en troisième, lors de mon conseil d'orientation, le prof qui est chargé de l'orientation, le conseiller d'orientation me dit, donc moi je lui dis, en fait moi monsieur, j'ai pas envie de faire plus d'études, enfin j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire un apprentissage, voilà, qu'est-ce que vous me proposez, comment je peux faire, etc. Il m'a juste répondu, bah non, toi je t'inscris pas en apprentissage, en gros fais un bac général et puis t'as les capacités pour le faire, donc l'apprentissage entre guillemets ouais de garage, c'est pas pour toi, quoi.
Ah, quand t'as refusé l'option directe, t'avais envie, mais non, tu t'iras pas en apprentissage, quoi.
Ouais, voilà, en fait, bah, quand t'es en troisième, il me l'a pas exactement dit comme ça, mais en fait, tu te fais convaincre assez facilement que, en fait, non, il faut que tu fasses du général. Donc, j'ai fait du général, j'ai passé mon bac. J'avoue que les années lycées, c'était pas ma tasse de thé du tout, parce que j'ai un petit problème avec l'autorité et l'encadrement, c'est-à-dire que quand j'ai un but, je sais comment y aller, j'ai ma façon de faire pour y aller. Mais j'aime pas qu'on m'impose des choses. Donc, en fait, faire les devoirs du soir pour le lendemain matin, ça m'allait pas du tout. Enfin, c'était assez chaotique. Par contre, après, arrivé à la fac. Donc, du coup, en fait, j'ai mon bac, je sais pas trop quoi faire. D'abord, je m'inscris en BTS. Et puis, finalement, je me dis, bah non, t'aimes bien la chose publique, un peu la fac, le droit, ça te plaît. Tu vas faire ça. Et donc, je m'inscris en fac de droit. Tout le monde dit, oulala, vu mon parcours au lycée, on me dit, oulala, qu'est-ce que tu vas faire en droit? Ça va être la cata et tout. Et en fait, je passe toutes mes années hyper facilement parce que justement, en fait, t'es pas encadré. Et le fait de pas être encadré, mais juste d'avoir un but à la fin, t'es partiel et tout, ben, ça m'allait très bien. Et franchement, j'ai adoré le droit. J'ai trouvé ça hyper hyper enrichissant, surtout les premières années où tu fais vraiment beaucoup de droit public, d'histoire du droit, comment la société fonctionne. Il y a un peu de sociaux aussi. Tout ça, j'ai adoré. Puis arriver en master 1, master 2 où tu spécialises un peu plus. En fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus technique. Alors c'était toujours intéressant, hein, mais ça me plaisait moins, quoi. Je voyais plus l'aspect vraiment pratique, redondant de l'application du droit, qui me plaisait beaucoup moins. Et en fait, après, je veux faire un master 2, donc je m'en sors bien, j'ai des bonnes notes. Et je veux faire un master 2 en droit des entreprises, ça s'appelle un DGCE. Et en fait, donc je m'inscris aux entretiens qui devaient être, je sais plus, en juin ou en juillet. Et finalement, entre-temps, donc c'est les vacances universitaires, je pars un mois au Vietnam me faire mon petit road trip avec mon sac à dos. Et on m'appelle, on me dit ben les entretiens, c'est dans genre 10 jours. Et là, je fais ben ok, c'est mort quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Zoom et toutes ces choses-là. Donc, en fait, je n'ai pas pu faire les entretiens. Donc, je n'ai pas pu faire ce master. Et j'avais en deuxième choix postulé sur un master droit financier, droit bancaire et financier. Et du coup, en fait, je me retrouve en droit bancaire et financier. En plus de ça, en fait, en rentrant du Vietnam, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas à la sortie de mon master 1 faire le concours d'avocat. Et je le tente. Je le rate à 0,3 points. Et là, je sais pas, du coup, en fait, vraiment, le Master 2, il m'a pas du tout intéressé, les matières m'intéressaient pas. En plus, j'étais dans un mood où, je venais de rater un truc, donc j'étais pas spécialement dans quelque chose de très optimiste. Et il se trouve que par la suite, heureusement que je l'ai raté, parce que j'ai fait un stage en cabinet d'avocat, je me suis rendu compte que c'était un truc qui me correspondait vraiment pas du tout. Donc j'ai fait toutes mes années de droit pour faire avocat, et en fait, en faisant le stage, je me suis dit non, en fait, c'est pas pour toi. À la suite de ça, j'ai cherché du boulot à Strasbourg, ma ville d'origine, ma ville d'études. Et en fait, en droit financier, il se trouve qu'à Strasbourg, t'as pas de job, quoi. T'as pas de job parce que tout est à Paris. Et j'ai un copain qui me dit, écoute, moi, je suis chez Amundi, viens faire un stage si tu veux, on cherche du monde, etc. Donc, je me suis retrouvé à faire un stage en épargne salariale et retraite, donc pour tous les plans que certainement beaucoup d'entre vous ont, c'est PERCO, plan d'épargne entreprise. Là-bas pendant 6 mois, au sortir de quoi, ils voulaient m'embaucher, mais ils n'avaient pas les crédits. Donc j'ai envoyé mon CV dans un cabinet de recrutement et je me suis retrouvé à passer un peu plein d'entretiens partout. Jusqu'à finalement sélectionner un qui me plaisait pas mal. C'était donc dans ma boîte, enfin dans le syndicat pour faire du lobbying. C'était le truc le plus sexy qui payait le mieux. Enfin bref, il y avait tous les éléments. Et je me suis retrouvé à partir de septembre 2018, du coup, à faire du lobbying pour les sociétés de gestion financière. En gros, ça c'est le truc. Et après,
Mais avant, juste, j'ai une question, parce qu'en troisième, donc tu dis que déjà tu veux un peu sortir de la route scolaire, tu veux aller en apprentissage. Entre la troisième et le master 2, il s'est passé 8 ans. Cette idée d'aller en apprentissage, déjà en apprentissage, tu voulais faire quoi exactement? Quel
je
métier?
savais pas trop en fait, j'avais juste pas
Faut
envie,
juste
juste envie
travailler.
d'aller à l'école quoi. Ouais, j'avais
Okay.
envie de, ouais, pas forcément en apprentissage manuel quoi. C'était vraiment, j'avais envie d'aller bosser. L'école, ça me saoulait entre guillemets. C'était pas mon truc. Et enfin, je pensais que c'était pas mon truc. Après, du coup, ça l'a quand même été. Ouais, mais en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment pas envie quoi. C'était pas mon truc. Vraiment
Et
pas
pendant
mon
ces
truc.
8 ans, ton idée de d'arrêter l'école et de travailler, je sais pas, de faire quelque chose, ça, tu l'as oublié, tu es passé au-dessus, le droit, ça
Bah
t'a plu, donc.
en fait après donc tu fais mon lycée donc forcément tu le termines ton lycée donc il y a déjà 3 ans et le droit ça m'a plu clairement et puis en plus comme dit t'es dans une machine où tu dis en première année tu dis dans ta tête tu vas être avocat donc tu vas au bout et je l'ai pas du tout mal vécu en fait je l'ai hyper bien vécu je l'ai hyper bien vécu c'est une fac en plus tu gères un peu ton temps comme tu veux tu te fais plein de potes tu rencontres plein de monde tu peux gérer ça comme tu veux donc en fait tu peux même faire des soirées du jeudi pas aller en cours le lendemain et puis tu rattraperas le truc le samedi tu vois c'était pas enfin c'était vraiment sympa je pense que c'était avec du recul mes plus belles années peut-être avant celles qui sont à venir dans le futur là.
Ok, donc là, en 2018, tu as ton job de lobbyiste
Ouais.
et là, t'es quoi? T'es deg? Tu te rends compte que tu
Non, et
kiffes
en
pas
fait,
ça?
bah non, mais en fait, je peux pas être deck parce qu'en fait, je passe. Donc déjà, la première année, ça se passe très bien, j'apprends plein de choses quand même. Et je passe de 0 € de revenus à genre je vais pas donner le montant, mais genre un bon salaire bien confortable que plein de personnes n'ont dans plein de métiers jamais dans leur vie, quoi. Donc en fait, tu commences à être très bien. C'est assez marrant d'ailleurs parce que au début, c'est très étrange. Tu continues à vivre comme un étudiant, t'es pas conscient de ce que tu gagnes. Donc là, ça se passe super bien. Première année, franchement, nickel. J'ai des bons collègues. Ils avaient embauché pas mal de jeunes en même temps que moi. Donc, on se fait une petite team et tout. C'était très sympa. Deuxième année, en fait, je profite un peu de ces revenus et tout pour m'acheter un appart à Paris. Donc, j'achète un petit appart. Je le fais complètement rénover. Ça dure un an. C'était vraiment de fond dans le comble, donc pendant un an. Et troisième année, donc là, j'avais vraiment commencé à faire le tour de mon boulot, en tout cas de ce qui pouvait me plaire et ce que ça pouvait m'apporter. Et bim, en plus, t'as le Covid qui arrive, donc tu te retrouves en télétravail chez tes parents en Alsace. Et il se trouve que mon beau-père est boucher de métier, il est à la retraite là, mais il donne souvent pas mal de conseils, que ce soit financier, au niveau de la rentabilité ou au niveau des recettes, parce qu'il a fait une école agroalimentaire derrière. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à faire le tour de plein de petits bouchers un peu partout en Alsace. Et j'ai même participé à la préparation de commandes pour un Noël. Et en fait, j'ai trouvé l'ambiance vachement cool, vachement sympa. Ce fait d'être un peu tous dans le même bateau et d'avancer ensemble comme une équipe, j'ai trouvé ça hyper cool. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas changer? Pourquoi pas changer? Mais bon, de là à sauter le pas quand même, si tu veux, il y a quand même encore un gap. Et fin du confinement, je rentre à Paris et je me souviendrai tout le temps, je suis à l'arrêt de métro à Châteaurouge, là, et puis je fais la file pour acheter un ticket de métro, parce que je prends jamais le métro. Et du coup, bah, j'ai pas d'abonnement, mais j'achète des tickets. Et je vois deux personnes devant moi qui limite se tapent dessus pour savoir qui était devant qui dans la place, dans la file pour acheter un ticket de métro. Et là, je me dis, en fait, t'as plus envie d'être à Paris. Genre, en soi, je venais d'avoir un nouvel appart, mais il est quand même tout petit, tu vis hyper mal. Tu te sers, tu gagnes bien, mais au prorata, tu vis quand même hyper mal. T'as envie de faire quelque chose de tes mains, t'as envie de rentrer à Strasbourg. Là c'est le moment maintenant d'enclencher la chose et d'essayer de bouger quoi. Et à partir de ce moment-là, en fait, si tu veux, je fais pas mal de démarches. Je vais chez Pôle Emploi 2 fois, j'y suis allé 2-3 fois, d'abord par mail et ensuite en physique 2 fois, pour savoir quelle était la meilleure approche, si tu veux, pour pouvoir faire une reconversion. Et il se trouve qu'en fait, je tombe sur un conseiller hyper sympa qui adorait les reconversions, les formations, etc. Donc, on étudie plusieurs pistes pour finalement opter presque pour la plus simple, mais qui est quand même méconnue, je pense, de beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir, c'est demander une rupture conventionnelle à mon employeur, ce qui me permettra ensuite de percevoir, quand je serai apprenti boucher avec un tout petit salaire, la différence, enfin le delta entre mon petit salaire et mes droits au chômage. Donc en fait, ça me réduit quand même ma qualité de vie, clairement, puisque tes droits au chômage, ils sont jamais du même montant que ton salaire. Mais ça me permet toujours de payer mon emprunt pour mon appart, et quand même de vivre un minimum, quoi. Et ça, c'était la première étape de la reconversion. Une fois que ça s'était un peu plié, j'ai cherché un centre de formation, en fait. Et il se trouve qu'en
Reparti en tant
boucherie,
qu'étudiant, en
ben,
fait. T'es retourné au lycée à
ouais.
chercher.
Ben, j'ai recherché des trucs et tout, et puis j'ai appelé d'abord je voulais directement rentrer en Alsace, donc j'ai appelé le CFA du coin. Et le problème, c'est qu'il me disait bah oui, mais en fait on a plein de classes pour des reconvertis en cuisine par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, ça a été médiatisé avec Top Chef et ces choses-là, mais en boucherie en fait il y a tellement personne qu'on veut bien t'inscrire. Et encore qu'eux, ils savaient pas trop comment ça fonctionnait. Il me disait que les employeurs, bah, parce qu'en fait, vu que j'ai plus de 28 ans ou plus de 26 ans, j'ai 28, mais donc quand tu as plus de 26, il faut déjà te payer au minimum un SMIC. Donc ça pouvait déjà poser problème à Strasbourg, tu vois. Versus un apprenti qui coûte 300 balles. Et donc ils n'avaient pas de classe dédiée, ils me disaient, ouais, tu n'auras peut-être pas d'employeur, etc. Et en fait, par un pote à mon beau-père, lui m'a dit, bah écoute, je connais une école à Paris, je sais qu'ils ont des classes de reconvertis, je te file le contact du secrétaire général de l'école, appelle-le et vois avec lui. Et en fait, je l'ai appelé, on a discuté un peu, et puis il m'a dit, bah, écoute, passe à l'école, on fait un rendez-vous et on voit quoi. Donc, je vais à l'école, je lui explique un peu mon idée, mon parcours. Moi, je suis vachement, enfin, je fais pas une reconversion juste pour être boucher. Je pense que tu peux faire une reconversion pour apporter plus. Moi, j'ai envie de faire une reconversion pour apporter à mon territoire, tu vois. J'ai envie de faire une reconversion pour essayer de réintroduire des races locales en Alsace, de faire les choses bien, de faire une boucherie de proximité, avec peut-être de nouveaux concepts derrière et tout, pour en reparler ou pas, parce que je le garde un peu pour moi pour le moment, mais en tout cas, il y a toute cette idée-là, et je lui explique, et il me dit, ben, écoute, nous, à l'école, on est OK pour te prendre. Maintenant, au niveau de l'employeur, écoute, dans ton concept un peu, je te propose 3-4 employeurs différents, 3-4 bouchers différents, dont un employeur qui s'appelle Terroir d'Avenir, où ils sont un peu dans la même démarche que moi, c'est-à-dire qu'ils vont. C'est deux mecs qui sortent d'école de commerce qui vont piocher des produits, enfin qui ont commencé en allant piocher des produits un peu de toute la France au niveau de petits producteurs pour les vendre aux restaurateurs et les mettre en valeur chez les restaurateurs à Paris. Et en fait, le truc a décollé et il se trouve qu'après, ils ont ouvert des boutiques, dont des boulangeries, des primeurs, des fromagers, des bouchers. Il y a une petite rue, la première rue qu'ils ont faite, c'est une rue entière avec tout leur commerce. Ils ont pris une petite rue où il n'y avait rien. Ils ont implanté leur commerce un peu partout et c'est la rue du Nil à Paris et le truc cartonne en fait.
Donc tu travailles pour eux, si j'ai bien compris? C'est avec eux que tu travailles là
C'est
actuellement?
ça.
T'es leur apprenti, c'est ça?
Pour le moment, je suis apprenti chez eux, ouais, c'est ça.
Ok, et tu fais quoi exactement en tant qu'apprenti chez eux?
Bah, je fais vraiment le job de boucher. En fait, c'est une toute petite boucherie qui fait 31 mètres carrés avec les frigos. Donc, autant te dire que c'est vraiment tout, tout petit. On est une petite équipe de quatre. On est en roulement. On est soit des équipes du matin, soit des équipes après-midi, soir. Et vu que c'est tout petit, on fait tout. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve même à désosser des cuisses de bœuf devant les clients, devant, parce qu'on n'a pas la place derrière pour le faire, quoi. Et ça, je trouve que finalement, cet inconvénient-là se transforme en avantage. C'est que les gens voient qu'on travaille de la belle marchandise, souvent ils nous posent des questions sur bah, quelle est cette partie, du coup, quand je mange cette partie, c'est quelle partie de la cuisse, ou alors c'est quelle partie de l'avant, etc. Et c'est vachement bien parce qu'en fait, les gens redécouvrent ce qu'est vraiment la viande, quoi. C'est pas un truc sous barquette ou en fait un rôti ficelé dans lequel on coupe une tranche, c'est genre un vrai morceau de bœuf, un vrai demi-bœuf qui est détaillé, valorisé par le boucher, quoi. Donc, je fais pas mal de découpes, de désossage, je fais beaucoup de ventes aussi. Il m'arrive de désosser une cuisse de bœuf, de m'arrêter pour aller servir un client, pour revenir après à mon désossage. Et donc, ça permet de faire plein de choses en même temps. Ce qui fait qu'en fait, les journées, elles passent super vite, quoi. T'as jamais le temps de t'ennuyer du tout.
Tu bosses
Enfin,
quand
moi, je dors.
tu bosses, c'est quoi tes semaines à peu près? Tu travailles toute la semaine ou comment ça se passe?
Alors, je travaille pas le lundi comme toutes les boucheries, en fait, on est fermé. Et après, je travaille toutes les semaines, samedi compris, et un dimanche sur deux.
Ok. Et c'est, j'imagine que tu commences tôt, non? Je connais vraiment rien au métier de boucher, hein. C'est pour ça que je pose peut-être des questions
Bah, je
bêtes,
commence.
mais...
Non, ça va, on commence pas trop tôt encore chez nous, on commence à 7 heures.
Ouais.
Donc, c'est tôt par rapport à mon job avant où je commençais à 9 heures, mais en soi, c'est pas tôt par rapport à d'autres boucheries où tu peux commencer à 5 heures, quoi. Donc, soit je commence à 7 heures et je fais 7 heures, 14h30, 15 heures, soit je commence à 12h30 et je finis la journée jusqu'à 20h30. Ça dépend, en fait, on a des plannings qui bougent pour que ce soit assez égalitaire entre tout le monde, quoi.
Et j'ai peut-être raté un truc, mais donc là, j'ai suivi entre tu quittes ton métier, tu deviens apprenti pour cette entreprise. Mais à quel moment tu as appris le métier? Tu es allé à l'école ou est-ce que...
Oui, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce parcours de reconversion, tu commences par 6 semaines d'école de formation intensive en pratique où tu fais vraiment que du désossage, de la découpe, du parage. C'est à l'École nationale des métiers de la viande à Paris. Vu que le programme est vraiment fait pour ça, tu commences par 6 semaines où tu fais que ça. Donc, quand tu arrives en entreprise, en fait, tu connais déjà un peu les morceaux, tu sais déjà un peu comment les désosser, comment les présenter. Après, le reste, ça s'apprend sur le tas à l'école et sur le tas en
Ouais.
entreprise. Et il te reste quand même pendant 1 an, 1 semaine d'école toutes les 6 semaines. Donc, en gros, la formation à l'école pure, elle dure 12 semaines.
Ouais, c'est rapide. Moi, je mine que d'apprendre tout de toute façon au travail
Tu
comme tout
apprends tout sur le
apprenti.
tas et c'est marrant avec les gens de l'école. Ben, on a plein de façons de faire différentes en fait en fonction de nos patrons, de comment on fait chez nous. Il y en a. Nous, on est vachement boucherie brute, c'est-à-dire qu'on va pas mettre sur nos petits rôtis, on va pas mettre de carottes, de poireaux ou de petites décos, des choses comme ça. On préfère faire un beau ficelage bien calé. Mettre en valeur la viande. Et il y en a d'autres qui vont décorer des rôtis avec des carottes, des courgettes, des choses comme ça. Mais nous, c'est pas du tout notre mood, quoi. C'est
Toi, t'es pas
vraiment,
dans l'art,
non,
hein. T'es pas un
non,
artiste.
bah, si, c'est artiste, mais on met en valeur, enfin, en gros, dans notre idée, c'est de plus mettre en valeur la viande que, en fait, pour nous, là, il n'y a pas besoin de déco sur de la viande, quoi. Tu vends de la viande, tu mets en valeur ta viande avec la viande et pas avec des carottes, quoi. Mais après, il en faut pour tout le monde, quoi.
Et il y a un truc qui m'étonne à chaque fois, c'est un peu une discussion qui revient avec tous mes invités, mais c'est la partie égo. Quand tu quittes un métier qui est plutôt valorisé, où tu disais bien ta vie, tu sais, quand tu quittes ça pour être boucher, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté avec ton ego et à dire mince, je vais quand même perdre mon salaire, je vais perdre un statut social, entre guillemets. Est-ce que tu as eu cette peur ou pas du tout?
Ouais, je l'ai beaucoup eu, hein. Et puis c'est ce que j'expliquais dans mon post sur LinkedIn, là, c'est que j'ai beaucoup eu cette peur-là, si tu veux. Mais en fait, après, en parlant à mes proches, en voyant vraiment comment ça se passait dans la profession, je me suis dit qu'en fait, et puis même, enfin, tout le monde m'a rassuré là-dessus et je me suis dit qu'après tout, on s'en fout parce que, je veux dire, moi, j'étais plus heureux dans mon job. Je savais que de faire un autre job du même type, ça me plairait pas. D'ailleurs, j'ai passé des entretiens pour le faire, pour vraiment voir si ça pouvait encore me plaire. Et la conclusion, c'est que non, c'est qu'en fait, être posé à un bureau toute la journée et à voir personne ou voir que des gens intéressés par rapport à ton travail, enfin, que des gens intéressés sur ce que tu peux faire au travail et pas vraiment intéressés par toi, par ce que tu peux leur apporter et tout, en fait, ça m'a fané, quoi. Je me suis dit, mais je peux plus faire ça et faire ça pendant 40 ans, mais juste pas possible. Et surtout que dans mon stage avant, je voyais des gens, ils étaient là, mais ils étaient juste, enfin, ils avaient 50 balais et ils étaient en mode, ben, j'attends la retraite, mais plus personne leur filait. Ils avaient plus de boulot, des espèces de titres de job, genre projet transverse, parce qu'il coûtait trop cher à licencier ou parce qu'il coûtait trop cher à faire des ruptures conventionnelles. Et en fait, ils étaient là, ils gagnaient encore bien leur vie, hein, mais ils étaient complètement détruits, quoi. Enfin, psychologiquement, c'est horrible. Tu vas tous les jours au boulot et t'as plus de taf, t'as plus rien à faire.
C'est le cauchemar.
Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de finir comme ça. Vraiment, c'est un truc. Et en fait, pour progresser vachement dans le domaine dans lequel j'étais, il fallait être très bon. Et pour être très bon, je voyais les gens très bons parce que dans mon métier que j'avais en tant que lobbyiste, on rencontrait que les directeurs et les PDG et les secrétaires généraux des grosses boîtes. Et ces gens-là étaient excellemment brillants et c'était très bon, mais c'est des purs passionnés, quoi. Et moi, je me suis dit, en fait, ce truc te passionne pas, donc tu seras jamais très bon, donc tu seras jamais tout en haut, donc à un moment, tu vas finir dans un placard. Quand je voyais ces cas-là, je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible. Vraiment, j'ai pas envie de terminer comme ça, quoi. Je préfère gagner moins, et au final, gagner moins, après, en rentrant en Alsace, en rentrant à Strasbourg, c'est pas très grave, parce que au final, là, pour ce que je paye pour mon appart aujourd'hui à Paris, j'ai 31 mètres carrés, je rentre à Strasbourg, j'ai 100 mètres carrés dans un très beau quartier. Donc, je peux payer un peu moins, me mettre dans 70 mètres carrés ou 80 à Strasbourg, et très bien, quoi. Toujours mieux, même en gagnant un peu moins.
Qu'est-ce qui te plaît tant dans le métier de boucher? C'est mettre en avant le territoire, tu disais, c'est quoi qui te passionne
Ah,
autant, qui te...
ce sera un peu plus tard, si tu veux, parce que là, pour le moment, je suis à Paris, donc on travaille de très bons produits, mais tu sais qu'à Paris, c'est compliqué de trouver tout ce qu'il faut autour de Paris. C'est tellement grand et habité que. Qu'en fait, chez nous, on va piocher dans plein de régions de France pour s'approvisionner. Mais ce qui me plaît vraiment, déjà, c'est simple. Enfin, tu fais ta journée, elle dure 8 heures. T'as pas le temps de regarder une seule fois l'heure. Et en fait, à un moment, tu lèves la tête et tu vois les collègues qui viennent prendre la suite. Et tu dis, mais mince, il est quelle heure? Et en fait, tes 8 heures, elles sont passées, quoi. Alors que j'étais au bureau avant, tout le temps, j'étais scotché sur l'heure. Toutes les 2 heures, je disais à mon collègue, vas-y, viens, on va se prendre un café. On faisait un café d'une demi-heure. Enfin, tu vois, c'était pas du tout le même rapport au temps. Et tu vois bien qu'en fait, il y a un des deux métiers dans lequel tu t'ennuyais et dans l'autre, pas du tout. Et après, ce qui me plaît vachement, c'est de valoriser la viande au mieux. Vraiment, nous, on reçoit que des carcasses entières. Donc, on valorise toute la viande. Il y a plein de bouchers qui, en fait, ne reçoivent soit que des arrières, soit que des avants dans les boucheries cachères. Et en fait, bon, eux, c'est différent, c'est religieux, mais ils ne traitent que les avants. Ils peuvent pas traiter les arrières. Et donc en Alsace, tu as plein de boucheries qui reçoivent que des arrières ou qui reçoivent même, tu vois, du sous-vide, quoi, du sous-vide qu'ils ouvrent, qui ficellent un peu et qui te remettent devant en vitrine comme en gros de l'artisanat, alors qu'en fait, c'est épluché dans des gros centres de découpe et c'est envoyé comme ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Moi, à terme, l'idée, c'est vraiment de remettre le produit au centre, de remettre le produit en centre en valorisant tous les morceaux, en essayant de les valoriser. Franchement, tu peux acheter un demi-bœuf aujourd'hui et le valoriser de A à Z. C'est pas parce que l'avant, il est moins tendre, et encore qu'il y a des pièces qui sont tendres, que tu ne peux pas valoriser. Tu vas le passer dans des choses à cuisson plus longue. Tu vas le transformer. Tu vas en faire de la charcuterie. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et le deuxième truc qui me plaît vachement, c'est d'être au contact des clients, quoi. C'est quand tu es en vente. Enfin, nous, du coup, on fait un peu tout, mais quand tu es en vente, tu fais plaisir aux gens, clairement. Ben, les gens sont là, ils reviennent. Tu leur vends un truc, ils reviennent 2 jours après, ils me disent « Ah, oh, c'était exceptionnel là, ce que vous m'avez conseillé, punaise, vous avez quoi d'autre à me conseiller? » Ou « Ah, la recette que vous m'avez donnée pour faire mon bourguignon, c'était vraiment génial, jamais j'ai fait un bourguignon comme ça. » Enfin, tu vois, c'est plein de petites satisfactions en fait de tous les jours, mais qui font que ben, tu es heureux de faire plaisir aux gens et du coup, tu es heureux toi-même. De leur vendre des bons trucs, tu vois, où ils reviennent tous les 2 jours en disant « Ouais, c'était incroyable », ça, je trouve que ça a pas de prix en fait. Tu sais si tu fais bien ton travail ou pas. Alors, que dans ce que je faisais avant, parfois j'avais des projets, je les portais, puis après on savait pas ce qui devenait, quoi. Là, ben, tu sais que tu fais plaisir. Clairement, tu sais que tu fais plaisir aux gens. Tu sais que tu as bien fait ton boulot, sinon j'en reviendrai plus. Ou ils râleraient. Et ça, c'est pas génial quand les gens râlent, c'est jamais marrant. Mais tu sais que ton truc est bien fait, quoi. Et en fait, tu es satisfait de ce que tu fais. En fait, tu trouves une satisfaction là-dedans.
Et tu parlais tout à l'heure des métiers, donc tu dis que Top Chef, etc., ça a amené beaucoup de monde vers la cuisine, mais pas
Ouais.
forcément vers la boucherie. Aujourd'hui,
Ouais.
il n'y a pas beaucoup de bouchers, enfin pas beaucoup d'apprentis bouchers, il y a une pénurie, il y a...
Bah en fait, on manque beaucoup. Alors, il y a 2 points, je pense, aujourd'hui. C'est un, bah, le métier est pas très sexy, malgré le fait qu'aujourd'hui, tu commences à avoir un peu des comptes Insta, des gens qui parlent de ça, et où tu as plus de visibilité. Les gens se disent, bah, en fait, c'est cool. Mais ça reste quand même pas très sexy. On a toujours l'image du gros boucher bedonnant, plein de sang. Enfin, voilà. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. Mais bon. Et il y a ce point-là. Donc, il y a un problème d'image, je pense. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'on envoie des gens pas intéressés faire de la boucherie. Typiquement, moi, en troisième, on m'a dit, bah non, tu vas faire du général. Si j'ai dit, j'aurais voulu faire boucher, j'adore ça. m'aurait dit, ben non, on va faire du général parce que tu as des capacités pour faire du général. Mais en fait, j'aurais été sûrement un très bon boucher. Et à contrario, tu as des mecs qu'on envoie faire des apprentissages parce que soi-disant, ils sont pas bons à l'école. Mais en fait, c'est juste peut-être, tu vois, c'est peut-être juste le système de l'école qui leur plaît pas, mais ils peuvent exceller dans plein d'autres domaines. Tu vois, ça se trouve, les mecs arrivent à la fac. Un peu comme moi, le lycée, ça m'allait pas. Ben là, le mec a fait son lycée, ça lui va pas trop, mais bon, il galère un peu. Il arrive à la fac, et ben, il se trouve une vocation, il devient avocat et ça se passe très bien. Sauf que tu le fous en boucherie, le mec qui voulait devenir avocat, il est bouché, ben, ça lui plaît pas, en fait. Enfin, du coup, ça lui plaît pas, on revient toujours à la même histoire. Ça lui plaît pas, il peut bien faire son travail. Juste 16 heures, il fait ça vite fait et au bout d'un moment, ben, il en a marre. Et souvent, moi, je vois en Alsace, à l'époque, les bouchers, ben, le métier était pas très valorisé, ils ont fait ça par dépit, par défaut. Bah, ils allaient en Allemagne bosser à l'usine, ils gagnaient deux fois plus et ça leur allait bien de faire leurs heures. Mais tu vois, alors que c'était. Donc du coup, là, t'es pas dans un métier passion. Quand t'es pas passionné par ton boulot, c'est compliqué quand même de bien le faire.
Boucher en plus où j'imagine que tu es souvent debout, enfin c'est pas non plus évident quoi.
Ah bah, t'es tout le temps debout, tout le temps à porter des choses. Moi, j'ai perdu 14 kilos depuis que je fais ça. Hein. Je suis en pleine forme. Donc l'image du boucher bedonnant, tu vois, chez moi, c'est totalement l'inverse, quoi. Bah non, c'est pas Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta, tu perds un peu tout, quoi. Ouais, quand t'es en boucherie, tu perds du ventre et tu prends des muscles. C'est différent, mais ouais. Non, non, et ouais, clairement, il y a un problème d'image aujourd'hui. Et t'as un problème de formation aussi. C'est-à-dire que nous, à l'école, là où je suis, on a de la chance parce qu'ils travaillent avec Rungis, donc ils nous envoient beaucoup de viande à traiter, si tu veux. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que Rungis, certains acheteurs de Rungis nous envoient de la viande que nous, on retraite et qu'on renvoie déjà toute parée, toute finie pour les boutiques. Ce qui souvent en région, en fait, t'as pas ça. Parce que les mecs ont pas, parce que Rungis, tu l'as qu'à Paris, et en région, t'as pas ça. Donc ils se retrouvent à 10 élèves à désosser une cuisse de bœuf sur 2 jours, quoi. Et le problème, c'est que comme ça, bah, tu peux pas apprendre et tu peux pas être motivé quand tu peux pas faire les choses. Toi, si chacun à la queue leu-leu commence à faire la queue pour mettre un coup de couteau à chaque fois, bah, tu peux pas avoir les réflexes et les avantages de ce truc-là, enfin, et du coup, t'es forcément vite démotivé. T'arrives chez ton patron, le mec te gueule dessus parce que tu sais rien faire, mais en fait, tu peux rien. On t'a pas appris, donc. Donc, y a ce côté-là aussi. Et ouais, la cuisine s'est médiatisée. J'espère qu'un jour, la boucherie sera médiatisée. Je pense que ça peut l'être, hein, malgré le manuel courant un peu vegan aujourd'hui, mais ouais, on va polariser un peu les deux aspects. Il y aura vraiment les vegans et les défenseurs du bon steak, quoi, si je peux dire. Et c'est ça qui est plaisant aussi, c'est-à-dire que tu vas maintenant, je pense, plus vers une démarche de qualité. C'est les gens qui mangent de la viande veulent manger de la bonne viande, et les autres, tout simplement, ben, ils en mangent plus, quoi. Mais c'est sûr qu'à la limite, moi, je suis d'accord, hein. Plutôt que de manger de la merde, vaut mieux manger des pois chiches, tu vois.
Ouais, la partie végétarienne, j'imagine que c'est un peu un frein. Ça donne peut-être une mauvaise image du boucher.
Bah, on va dire qu'un végétarien, tu vas difficilement le convaincre que la viande est bonne, quoi. Il va te dire, t'es un tueur, machin. Bah, en fait, non, déjà, un, on ne tue pas. Et deux, bah, il y a plein de gens qui mangent de la viande, c'est des apports en protéines. Il y a des gens qui aiment ça. Je veux dire, à un moment, chacun vit sa vie comme il a envie de la vivre. Enfin, moi,
Quand
c'est un
tu
truc,
dis
ça
on
me.
tue pas, peut-être que tu peux expliquer comment ça marche, tout le processus, parce que là aussi, moi, je sais pas comment ça se passe, comment ça va
Bah,
jusqu'à la boucherie.
ce qui se passe, le boucher, il tue jamais rien, en fait. Le poissonnier, à la limite, tue des crevettes. Le boucher, on reçoit tout déjà en carcasse et après on le valorise, quoi. Mais je veux dire, comment tu veux retourner à une société? Enfin, c'est l'évolution, quoi. L'élevage, l'agriculture et l'élevage, c'est l'évolution de l'être humain. Enfin, à l'époque, tu avais l'humain chasseur-cueilleur, pêcheur, chasseur-cueilleur. Aujourd'hui, ben, tu as l'humain qui a pu se développer, s'installer à des endroits, devenir sédentaire grâce à l'élevage et l'agriculture. Tu peux pas enlever un des deux pans comme ça en disant bah c'est mal. C'est un truc qui existe depuis des milliers d'années. Je comprends. Enfin, j'avoue que j'ai du mal à saisir un peu l'argument de ces gens-là.
J'imagine, je sais pas, après moi, pour être honnête, j'ai pas d'avis sur la question, mais
Ouais.
j'imagine que le point de vue opposé serait aujourd'hui, on a un niveau technologique qui fait qu'on peut s'en passer, peut-être, je sais pas, je m'y connais pas non plus en nutrition. Donc, si on peut s'en passer, bah, pourquoi continuer? Je pense que c'est ça l'argument contraire, non?
Je sais pas, moi, j'ai pas envie de bouffer de la viande roquetuée, perso, mais ça me ferait plus peur qu'autre chose.
Sur la partie, alors, tu vois, il y a un autre métier qui me. Matière que je trouve sexy, c'est un peu le métier de fromager pour trouver les fromages un peu partout en France. Est-ce que toi, il y a cette partie qui t'intéresse de trouver la bonne viande un peu partout en France? Comment on cherche?
Comment on cherche? C'est un peu de la relation, quoi. Enfin, par exemple, là, tu vois, je cherche. Moi, c'est pas tant pour ouvrir tout de suite ma boucherie, mais ça m'intéresse un peu, tu vois, si maintenant, avec l'écho qu'a eu mon poste et tout, je peux aider à développer déjà, tu vois, à aider des agriculteurs qui font bien leur boulot et des éleveurs qui font bien leur boulot à développer un peu leur élevage. Moi, ça m'attire de ouf. Et donc, du coup, en fait, j'ai contacté, là, j'ai vu la dernière fois, j'avais quelqu'un qui m'a envoyé le contact d'une ferme en Alsace là qui commence à réintroduire là des porcs noirs d'Alsace et justement tout et peut-être des Vosgiennes des vaches Vosgiennes dans le futur. Et en fait je leur ai envoyé un message, je leur ai dit ben, est-ce qu'on peut se rencontrer, on peut discuter, pas forcément pour leur acheter des trucs tu vois dans le futur, mais juste pour voir comment ils font leur taf et voir comment parce que le boucher il est pas éleveur quoi, donc si tu veux à un moment chacun son métier. Mais je pense que ouais, il faut y aller, faut pas se laisser, faut aller à la rencontre des éleveurs, faut voir comment ils font leur taf, faut voir aussi le produit fini comment il est derrière, hein. Faut voir quand tu coupes ton steak s'il est beau, s'il est persillé, s'il est tendre, s'il est saignant, enfin tout ça. Mais il faut découvrir et je pense que c'est ça la beauté du métier aussi. Là, pour moi, la beauté du métier, c'est pas d'aller à Rungis, de choisir des carcasses de viande en se disant bah tiens, ce truc-là, il est bien conformé, il y a une grosse cuisse, donc je vais bien pouvoir le valoriser. Tiens, ça m'a l'air un peu persillé, c'est pas mal. Là, il est bien foutu. Allez, j'embarque. Pour moi, je vois pas du tout ça comme ça. Moi, je vois vraiment le truc. Partenariat de confiance avec des éleveurs. Limite, tu fais un truc exclusif. Le mec, ben, il a une toute petite production, mais il te la vend qu'à toi. À l'inverse, tu t'engages, du coup, à tout lui prendre, tu vois, et à tout lui passer. Et je vois vraiment ça comme des relations de confiance. Je pense qu'il y a que comme ça que tu peux développer des super bonnes viandes et aider aussi les éleveurs à s'en sortir, quoi. Parce que si eux vendent à des grossistes, qui revendent à Rungis, qui revendent encore. Tu vois, finalement, tout le gain, toute la valeur ajoutée qu'il peut y avoir entre les deux, bah, ça passe par plein d'intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, ils ne travaillent pas gratuitement. Et donc, du coup,
Ouais.
tout ça se répercute sur l'éleveur. Et l'éleveur derrière, il ne peut pas faire de qualité, puisque s'il fait de la qualité, s'il nourrit bien ses bêtes, il fait plus aucune thune. Donc, je pense je suis novice là-dedans, et c'est compliqué pour moi de dire un bon boucher doit aller voir l'éleveur. Mais c'est comme ça que je le vois en tout cas.
J'imagine, c'est
Je veux
comme,
pas
bah,
critiquer.
comme beaucoup de produits, le lait, il y a notamment la démarche de c'est qui le patron, etc. Le lait, les œufs, tous
Ouais.
ces produits-là, où bah, à force d'avoir des intermédiaires, les marges chutent peu à peu. Et
Ouais.
l'éleveur producteur doit être obligé de faire bah, de la qualité pourrie pour augmenter un maximum ses marges, qui sont déjà assez faibles. C'est ça que
C'est
tu veux
pour ça
dire?
que maintenant, t'en as de plus en plus qui font eux-mêmes leur fromage, leur yaourt, etc. Mais ça leur implique d'autres choses. Il leur faut des agréments, il leur faut du matériel. C'est pas non plus évident pour eux, tu vois. Mais je pense qu'on revient vers un modèle où il faut que les gens suivent aussi. Je veux dire, on voit que pendant la crise, ils sont tous allés chez leur boucher à fond la caisse, tous chez le fromager du coin, etc. C'était vachement cool parce que tu n'avais pas besoin de rentrer dans un supermarché, pas besoin d'être dans un espace confiné. Tu allais chez un mec, finalement, limite, c'était ta seule sortie de la journée. Donc, ton lien social, c'était ton boucher, c'était ton fromager, ça te faisait du bien. Et aujourd'hui, on voit quand même que la tendance, donc, on a gardé une petite partie de cette clientèle, mais en réalité, les deux tiers de ce qui avait été gagné là, ils sont repartis en supermarché. Et d'un côté, je peux le comprendre, bah, parce que c'est des histoires d'argent et c'est des histoires, bah, tout le monde ne peut pas se payer des super produits. Tout le monde ne peut pas payer le boulot d'un artisan. Mais c'est pour ça que c'est toujours mieux de manger peut-être moins de viande, moins de fromage, mais d'en manger du meilleur, qui soutient un peu le mec qui fait bien son travail avec passion. Et toi, d'un autre côté, bah, tu te nourris mieux, tu t'évites de bouffer de la merde, tu vas pas manger un coulommier à 2 balles. Du coup, voilà, tu manges pas un coulommier à 2 balles tous les 3 jours, mais tu manges un bon camembert à 4 balles une fois de la semaine.
Question
Mais
très très
après,
bête, mais c'est quoi de la bonne viande?
c'est vachement en fonction du client, si tu veux. C'est lui en fonction de comment il la déguste. Mais pour moi, clairement, une bonne viande, c'est une viande qui avant tout a du goût. C'est bien d'avoir un filet de bœuf tendre et tout, mais finalement, le filet de bœuf, tu le prends dans n'importe quelle bête, c'est le même. Tu prends un filet de bœuf, c'est un morceau qui n'a pas de goût. Enfin, clairement, il est très tendre, c'est bien, t'as pas besoin de mâcher, mais il n'a pas de goût. Limite, prends un steak haché, ça te coûtera moins cher. Et en fait, et c'est aussi un problème de la boucherie, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui veut du filet de bœuf. Et chez nous, à la boutique, on l'a augmenté, parce que vu qu'on prend que des bêtes entières, t'as qu'un filet de bœuf par demi-bête, tu vois. Et en fait, bah, on n'en a jamais assez. Et donc, si tout le monde vient prendre des filets de bœuf, toi, t'achètes des bêtes entières, tu te retrouves avec ta bête entière, et en fait, les gens veulent du filet de bœuf, donc comment tu vends le reste? Et en plus, franchement, c'est juste tendre, ça n'a pas de goût. Donc moi, souvent, quand ils viennent à la boucherie, je leur dis, très bien, vous voulez du filet de bœuf? C'est très bien, mais je vous explique, on n'en a pas beaucoup. Faut leur expliquer les choses aussi aux gens. On leur a jamais expliqué. Tout le monde a toujours fait du rachat en disant, bah, tiens, on achète du filet de bœuf, on se fait notre marge dessus, et puis basta. Mais aujourd'hui, tu prends un super filet de rhum steak, il est quasiment aussi tendre, il a beaucoup plus de goût. Et quand tu le conseilles à un client, généralement, il revient, il revient du filet de rhum steak, il ne veut plus de filet de bœuf. Donc c'est aussi au boucher de faire la démarche de proposer autre chose. Et au-delà de ça, pour moi, une bonne viande, elle doit être bien grasse et bien persillée. Je veux dire, une bonne côte de bœuf bien grasse, bien persillée, c'est quand même, c'est un goût incroyable. T'as pas besoin de mettre d'huile dans la poêle, tu fais cuire dans son gras, c'est génial. Et tu pars même sur le porc, parce que le porc, franchement, dans l'imaginaire des gens, le porc, c'est sec, ça a pas de goût, à la limite, tu le manges pané, ça passe, quoi. Et en fait, tu vas prendre un bon porc, tu vas prendre un bon porc gascon, noir, élevé en plein air, bien gras, qui a bouffé des glands, qui sent la noisette avec une énorme couche de graisse. Tu fais un peu fondre la graisse, tu le mets dans ta poêle aller-retour, tu peux même le manger rosé. Le truc, il fond dans la bouche, quoi. Enfin, une très bonne côte de porc, c'est trois fois meilleur qu'une mauvaise côte de bœuf ou qu'un mauvais filet, mais il faut juste le savoir. En fait, il faut juste avoir la curiosité de goûter et d'aller au-delà de se dire, bah, en fait, c'est gras, donc j'aurais pas beaucoup de viande, donc j'aime pas le gras parce que c'est pas bon pour mon corps. Enfin, t'aimes pas le gras, mais dans tous les cas, tu vas mettre une noix de beurre ou une noix d'huile pour faire cuire ta viande. Donc finalement, c'est la même chose.
Et toi, c'est quoi ton idée à l'avenir? Donc là, t'es apprenti pour combien de temps? Un an?
Moi, je suis apprenti pour un an. Pour un an, ouais.
OK.
Et j'avoue que j'ai pas encore complètement pris ma décision pour ce qui va se passer au terme de cette année-là. Je termine en septembre et je suis un peu encore en hésitation sur plusieurs choses là-dessus. Est-ce que je monte tout de suite quelque chose? Est-ce que je reste encore un peu salarié? Je sais pas. Je pense que j'ai pas encore pris ma décision. Ça va se prendre 2-3 mois avant la fin de mon contrat, en fonction de plein de facteurs. Peut-être aussi si je trouve un local à Strasbourg. Si finalement je me dis ben tu connais pas encore assez, tu vois, il faut encore un peu apprendre. J'ai pas encore d'idée, mais c'est sûr qu'à terme, je vais ouvrir en Alsace, ça c'est certain, parce que c'est l'idée de base et c'est ma ligne directrice et c'est l'objectif, quoi. Je veux vite rentrer chez moi et je veux aider un peu les gens du coin aussi à découvrir ce que d'autres gens du coin produisent. Tu vois, souvent on sait pas. Tu peux aller en Alsace dans une boucherie, tu vas acheter, du porc de Bretagne, du porc d'Allemagne, du bœuf du Sud-Ouest, mais en fait, il y a des super trucs près de chez nous et il n'y a pas de lien entre le paysan qui est à 50 km. Et la boucherie, tu vois. Enfin, il
ça
manque un peu
de synergie. Pourquoi il y a pas ça paraît contre-intuitif complètement que le producteur à côté de Strasbourg soit pas connu à Strasbourg plus que le producteur d'Allemagne. C'est quoi les
Je pense il y a une question de tarif aussi. Je pense que quand tu veux aller chez un éleveur qui fait de la quali, tu payeras ta bête plus cher et du coup tu devras forcément le répercuter à un moment sur tes clients. Donc il faut avoir la clientèle pour aussi qui est prêt à payer cette démarche là et cette qualité de produit. Et après il y a beaucoup de bouchers qui sont installés depuis 30 ans, ils fonctionnent avec un système où ils vont acheter leur viande toujours au même endroit, typiquement à Rungis, sauf que ce serait Rungis à Strasbourg, mais typiquement chez un grossiste, c'est plus simple quand même d'aller tous les matins de te dire tiens, je prends ça et tu prends les morceaux dont tu as besoin. Parce que tu vas chez un éleveur, tu es obligé de lui prendre toute la bête.
Ouais.
Et si tu sais pas la valoriser ou en tout cas si tu as pas envie de t'embêter à la valoriser de A à Z, c'est compliqué, quoi.
Okay. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu avais des idées un peu créatives, bon, tu sais que tu voulais pas tout partager, mais c'est quoi que tu as en tête? Est-ce qu'on peut avoir un trailer, une bande-annonce, un truc?
Non, je veux dire, aujourd'hui, il y a des concepts qui font que je pense que tu peux passer des bêtes entières, mais je vais le garder pour moi encore un peu.
Ok, on fera un autre épisode dans 2-3 ans.
On fera un autre épisode plus tard. Tu viendras à la boucherie, on fera quelque chose.
Je viendrai en Alsace. Ouais. Quel conseil tu donnes justement à quelqu'un qui veut se reconvertir?
Être sûr, essayer d'être sûr en tout cas de vouloir faire ce métier, peut-être aller voir quand même avant. Enfin, tu peux pas vouloir devenir boulanger et te dire je me lève à 4 heures tous les matins pour pétrir du pain si t'as pas vu un peu avant comment ça se passe, parce que c'est pas non plus c'est compliqué, hein, t'es en rythme décalé et tout, c'est encore pire je trouve que les bouchers. Mais t'as besoin d'aller voir, ensuite faut pas faire n'importe quoi, tu claques pas une DM n'importe comment, tu t'essayes de t'essaies de voir avec Pôle emploi comment tu peux faire, t'essaies de regarder sur Internet, sur ce que tu trouves. Alors certes, tu trouves pas grand-chose, mais ça viendra. Peut-être que je posterai un truc là-dessus, d'ailleurs. Mais quelle démarche faire avant pour le faire le plus intelligemment, quand même pouvoir payer ton prêt ou tes frais si t'en as. Il y en a qui ont des gamins. Moi, il y en a plein qui disent « j'ai des gamins, je peux pas le faire ». En fait, si, tu peux le faire, mais il faut juste te baquer un peu avant. Et après, prendre un peu le pouls quand même de son entourage, si ça peut rassurer, quoi. Je pense que ça peut rassurer. Justement, sur cette histoire d'ego, sur le quand dira-t-on. Je pense que l'ego, vraiment, il faut en avoir. C'est sûr que je pense que pour réussir, il faut avoir de l'ego un moment. Pour se dire, je peux le faire et tout. Mais souvent, il faut aussi pouvoir le laisser de côté et se dire, mon ego, non, il me dit des choses mal. Là, il va pas me rendre heureux. Il faut un peu les deux, il faut savoir le gérer, je pense. Et une fois que tu fais ça, ben, c'est parti. Ouais. Hein, après, kiff. Hein.
Il y a une partie au début qui est intéressante, ce que tu dis, allez voir vraiment c'est quoi le métier. Parce que j'ai l'impression que des fois, on confond les bénéfices du métier avec le métier en lui-même. On imagine, par exemple, je prends l'exemple d'acteur, actrice, on imagine tous les bénéfices qui vont avec, l'argent, la célébrité. Pour certains, c'est un bénéfice. Tout ça, mais on n'imagine pas ce que c'est que la réalité du métier, ce que tu fais vraiment tous les jours. Et c'est ça, le métier. Donc, c'est toujours enlever ce gap entre bénéfices et la réalité de tous les jours. En boulanger, effectivement, peut-être c'est sexy à la fin de faire des belles pâtisseries, des belles baguettes, etc. Mais c'est, est-ce que tu aimes vraiment te lever à 5h du matin ou même 4h, travailler debout, du truc, c'est dur. Est-ce que tu kiffes vraiment ça, quoi? Parce que les bénéfices, c'est cool, mais c'est souvent qu'une minorité du travail.
Ouais, bah, c'est comme en boucherie. Hein. Tu passes souvent, allez, pas un tiers, mais un quart de ta journée à faire la vaisselle, c'est pas cool.
Ouais, voilà.
C'est pour avoir l'autre partie cool, tu vois. Après, faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est sûr que moi, foutre les mains dans la vaisselle, c'est pas trop mon truc, mais t'es obligé de le faire, donc tu le fais.
Ouais.
Aussi pour le client, après, pour que tu sois clean, quoi. Mais ouais, ça fait partie du truc.
Et
faut voir un peu, pas forcément longtemps, parce que longtemps après, ça peut peut-être te décourager et tout, mais vois ça une semaine, tu vas une semaine, tu regardes, il y en a plein, hein. Tous les artisans, ils cherchent du monde. Donc en gros, tu dis, ouais, je veux faire un stage une semaine. Tu vas le faire, hein. Y a pas de problème, le mec va te prendre, il va te dire c'est une semaine où je t'apprends un peu des trucs, il va m'aider, le mec va te dire gratuit. Ok, franchement, celui qui dit pas ok, c'est un peu con, quoi.
Ouais, ok, ouais, morale de l'histoire, allez voir les artisans, les apprentis ou les gens autour de, pas les apprentis, les commerces autour de chez vous et allez demander à faire la fois je me suis dit, tu sais, je suis allé voir mon mécanicien, parce que j'ai un problème de voiture, ouais. En France. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, lui demander de travailler une semaine pour lui. Je veux pas devenir mécanicien, mais moi, j'apprends vite fait un peu ce que c'est. Je suis sûr qu'il aura besoin d'aide. C'est gratuit. Ouais, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, pourquoi pas. Il y a deux questions que je pose toujours à la fin de mes épisodes. La première, c'est quel conseil tu te donnes à toi-même pour le futur?
Pour le futur, en fait, moi, ce que je vois, c'est ce que je vis déjà aujourd'hui. C'est vraiment d'être passionné par ce que tu fais. Et je pense qu'en étant passionné par ce que tu fais, d'ailleurs, tu peux faire de belles et grandes choses, tu vois. Chacun à son échelle, chacun dans son domaine. Mais moi, en tout cas, je suis persuadé que demain, dans quelques années, je pourrais vraiment réaliser tout ce que je t'ai dit, genre aider les éleveurs, avoir un business qui fonctionne, rendre les clients contents et tout. Moi, c'est vraiment ce que je me dis. Pour avoir été frustré un peu de ce que je faisais avant, pour moi, c'est vraiment le truc, quoi. C'est à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, je pense que tu es bon dans ce que tu fais, que tu réussiras de toute façon.
Je demande trois valeurs, en tout cas des valeurs de vie que tu as et que tu veux vraiment tenir jusqu'au bout.
Je pense que le premier, ce sera la transmission. Quand je serai assez formé pour aider des gens à être formés aussi, ce sera vraiment la transmission, c'est aider les gens. La deuxième, c'est... comment on pourrait dire ça ? C'est pas une valeur de vie, mais c'est être heureux. C'est être heureux parce que quand tu rends tes clients heureux, tu es heureux. C'est la transmission, c'est être heureux. Et la troisième, toujours essayer d'aller un peu plus loin. Toujours essayer d'aller un peu plus loin dans ce que tu fais, dans ta démarche, pour essayer d'améliorer les choses. Je ne sais pas si c'est très clair, mais demain, dans un futur proche, je vais ouvrir ma boucherie. Il y aura une étape d'après, peut-être pour améliorer le concept et tout, c'est d'aller plus loin, de faire quelque chose de plus, qui permettra encore mieux de valoriser ce que je fais, mieux de valoriser les producteurs. Enfin, il y a plein d'idées, mais ouais, c'est aller plus loin. Le dernier, c'est vraiment aller plus loin et essayer de développer le truc.
Bah, merci beaucoup, c'était une belle rencontre.
Merci à toi. Merci.
Et on se retrouve en Alsace dans la boucherie.
Dans 3 ans, ça marche.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.